Nous sommes rentrés dans la tente. Et nous avons donc ce chandelier. En fait, le mot chandelier est complètement impropre. Parce qu'on dit le chandelier, on est habitué à dire le chandelier, sauf que le chandelier n'existait pas, enfin plutôt, les chandelles n'existaient pas à l'époque, et on devrait plutôt l'appeler eh bien, la lampe. La lampe à huile. La lampe à huile. Parce que cette lampe donc, ne fonctionnait pas avec de la cire. Hein. Donc on dit chandelier, ça passe, il y a de la tolérance, mais enfin on sait de quoi on parle quand on dit chandelier. Mais c'est plutôt la lampe à 7 branches. Alors maintenant, on va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur sa grâce. On va voir que dans le symbole, il y a énormément de symboles encore, et ça nous parle de Christ, mais aussi de l'Église. Et vous allez voir quand vous lirez après l'Ancien Testament, vous verrez qu'il est question de la lampe. Vous la verrez, je vous le souhaite, différemment. Parce qu'on peut imaginer que c'est un peu comme on rentre dans une pièce avec un interrupteur, on appuie sur le bouton, puis on a de la lumière, mais ça n'a rien à voir. D'accord ? C'est un peu simpliste. Alors, il y a déjà une particularité dans la lampe à huile, c'est que cette lampe n'a aucun morceau de bois. On avait dit que, par exemple, la dernière fois, la table des parfums, elle était conçue de bois, et elle était aussi revêtue, donc, d'or. Que là, eh bien, à chaque fois qu'il me vient le chandelier, je suis obligé de lutter contre le mot chandelier, vous voyez, parce qu'on est tellement habitué à dire chandelier. Donc la lampe, si je dis chandelier, vous ne m'en voudrez pas, hein, j'espère. Donc cette lampe, eh bien, n'est conçue que d'or. Que d'or. Et il y a déjà dans cette lampe, eh bien, deux sens. Le premier sens, eh bien, c'est l'image de Christ au centre. Le pied avec le centre, Christ. Et les trois, lampes, qui sont trois d'un côté, trois de l'autre, représentent l'Église. L'Église. On peut supposer donc que cette lampe est d'un seul tenant et... L'image qu'on peut en retenir, en fait, c'est que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de Christ et de l'Église. L'un et l'autre sont indissociables. Indissociables. C'est une seule pièce. Je disais donc que cette lampe a été faite d'une seule pièce, en or pur. Mais elle a une autre particularité, c'est pour lui donner cette forme, elle a été battue. Elle n'a pas été fondue. On n'a pas fait un moule avec, comme ceux qui sont chez Arcelor, Mittal ou je ne sais où, quand on fait fondre eh bien, un métal quelconque ou des métaux mélangés, et puis après on a un moule, on verse dans le moule. Il n'a pas été question de faire un moule. Mais la pièce a été donnée, en étant battu. Nous savons que l'or peut être battu. On peut donner une forme à l'or. Et ça nous parle, quand on voit cette lampe à huile, eh bien, toute l'image de l'unification de Christ avec l'Église. L'un ne va pas sans l'autre. Et le fait d'avoir été battu nous parle eh bien, de la croix. Jésus a été cloué à la croix. C'est par ces meurtrissures, nous dit la parole, que nous sommes, eh bien, sauvés. La taille, le chandelier comme la cuve d'airain. Je rappelle que la cuve d'airain est à l'image, représente, eh bien, la personne du Saint-Esprit. Ce sont les deux seuls éléments dans le tabernacle qui n'ont aucune mesure. Nous ne connaissons pas les mesures du chandelier ni de la cuve d'airain. Et nous pourrions y voir aussi ici donc, que c'est des objets qui donc, sont les deux grands mystères que sont l'Église et la personne du Saint-Esprit soient mentionnés en aucune autre manière de mesure précise. C'est-à-dire que l'Église est un grand mystère. C'est un mystère, l'Église. Il n'y a aucune mesure. Vous savez que pendant que nous sommes ici, en train de nous retrouver à La Ciotat, Marignane, ailleurs, en France, on se retrouve aussi. Mais les gens se sont retrouvés où hier, vont se retrouver plus tard, dans le monde entier. Des églises qui sont ouvertes, comme des églises qui sont souterraines, le peuple de Dieu est immense. Il y a des gens qui souffrent encore, des gens sont étonnés lorsqu'ils le font, lorsqu'ils martyrisent, lorsqu'ils maltraitent des chrétiens. Ils disent, mais comment font-ils pour tenir bon ? Parce que c'est le mystère de Christ dans la vie du peuple de Dieu. Lorsque j'étais enfant, je voulais devenir moine. Mais parce que j'avais juste cette religion-là. Mais je ne connaissais pas Christ. Je le connaissais simplement parce qu'on me disait, par des simples prières. Combien de fois on peut croiser des gens en disant, mais je ne connais pas de prière. Parce que les gens sont arrêtés. Ils ne connaissent pas Christ. Mais lorsque Christ vient dans notre vie, quand Christ nous dit, l'apôtre Paul nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Qu'est-ce qui fait que des païens parmi nous, nous étions tous des païens, ou s'il y a un juif parmi nous, eh bien, il est devenu un juif messianique. Nous étions tous des païens non convertis. Nous sommes des païens convertis. C'est pas pareil. Hein? Nous sommes des enfants, des filles et des fils de Dieu. Nous avons une identité en Christ. Mais c'est un grand mystère, frères et sœurs. Pourquoi l'amour de Dieu nous a touchés ? Est-ce que nous nous rendons compte qu'il y a une multitude d'hommes sur terre ? Des milliards et des milliards. Combien sont partis depuis que nous sommes arrivés ? Combien d'autres sont arrivés ? Pourquoi Christ est venu toucher notre cœur à nous ? Pourquoi il nous a interpellés ? C'est le mystère de Dieu. Le Saint-Esprit est un mystère. Un jour, Dieu va dire à... La grâce de Dieu est un mystère. Un jour, Dieu va dire à Abraham, va le prendre par la main et le faire sortir de sa tente. Il veut dire, lève les yeux, regarde. Compte les étoiles, si tu peux les compter. La grâce de Dieu ne peut être comptée, ne peut être mesurée. Le Saint-Esprit ne peut être compté, ne peut être mesuré. Aucun calcul pour l'Église. L'Église est un mystère pour le cœur de l'homme. L'Église était un mystère caché du temps de l'Ancien Testament. Qui peut mesurer le corps mystique de Christ, la grandeur de Dieu, l'immensité de Dieu ? Qui peut comprendre l'amour de Dieu pour nous ? Combien de fois êtes-vous revenu à la croix depuis votre conversion ? Combien de fois nous avons goûté à cette grâce en disant « je suis incapable, je ne suis pas digne » et c'est vrai, nous ne sommes pas dignes. Et pour autant, nous avons goûté au mystère de Christ dans notre vie en disant « Dieu nous a relevés, régénérés ». Combien d'entre nous ont mangé la boue depuis leur conversion ? Combien d'entre nous ont peut-être même chuté et d'un cœur sincère et ont dit « Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi, sois apaisé envers moi ». Et Christ a relevé, régénéré. C'est le mystère de son amour pour nous. En fait, ne cherchez pas à comprendre l'amour de Dieu pour vous. Vous ne pourrez jamais le comprendre. Nous ne pourrons jamais le comprendre. N'essayez pas de comprendre pourquoi ceci, cela, nous n'arriverons pas à comprendre ces choses. Il est simplement demandé, est-ce que nous soyons dans la foi, de dire, Seigneur, j'accepte ta grâce pour moi, ton amour pour moi. Oui, cette lampe est indissociable avec les églises, l'Église de Christ. Et Christ lui-même. C'est un grand mystère. Trois unions sont particulièrement mystérieuses. L'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un mystère. Les gens butent parfois par rapport à ça en disant « Mais je ne comprends pas, Dieu est trois et c'est un seul Dieu, je ne comprends pas. » Oui, c'est vrai. Alors j'ai donné l'autre jour, je crois que ça doit être un jeudi, j'ai donné un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Moi je m'appelle Stéphane Minger, vous le savez. Maintenant, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Je suis le fils d'une femme et d'un homme. Le fils. Mais en même temps, je suis devenu le mari d'une femme. Et après, je suis devenu le père de mes enfants. C'est la même personne, mais qui a, en quelque part, trois identités. Le fils de quelqu'un, le mari de quelqu'un est le père de personne. Vous comprenez? Et c'est la même personne. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais enfin, en attendant, mais ça restera malgré tout un mystère. Père, Fils et Saint-Esprit. L'union entre le Fils et l'homme. Et l'union entre le croyant et Christ. La position, sa position, le chandelier qui diffusait la seule source de lumière, était la seule et unique source de lumière. Lorsque le sacrificateur entrait dans la tente, c'était sombre. Si la lampe n'avait pas été allumée, alors qu'elle devait être allumée, lorsqu'il rentrait, c'était sombre. Il n'y avait pas de lumière naturelle. Il n'y avait pas un petit fenestron pour éclairer. Il n'y avait pas un autre chandelier en main pour pouvoir rentrer dans le lieu saint. C'était uniquement le chandelier, la lampe à huile qui éclairait toute la pièce. Cette pièce donc cette lampe était la seule et unique pour l'éclairage. C'est la lumière de la présence de Dieu. Dans 2 Samuel 22, verset 23, il nous est dit « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. » Lorsque nous marchons avec sa lumière, sans sa lumière, nous sommes perdus. Combien de chrétiens se sont perdus, voulant essayer de trouver ici et là une autre lumière que la lampe à huile? Il nous faut faire attention, frères et sœurs, de ne pas nous habituer. Vous rappelez que le peuple de Dieu, lorsqu'il a été pendant 40 ans en train de manger du pain, la manne, venue du ciel, à un moment donné, il nous a dit qu'ils étaient dégoûtés de la manne. Dégoûtés. C'est-à-dire qu'ils en avaient tellement l'habitude que voilà. À force de lire la Bible, on pourrait devenir lassé. Prier le Seigneur. Pourquoi toujours Jésus? Pourquoi toujours Père, Fils et Saint-Esprit? Pourquoi la Bible? Pourquoi venir toujours les dimanches à l'église, ceci, cela? Et essayer de trouver d'autres pistes qui pourraient éventuellement nous éclairer sur certains mystères. Alors je rappelle que c'est un mystère, Dieu. Et d'aller sur Internet et aller ici et là chercher des choses qui pourraient nous éclairer, sauf que combien d'hommes se sont perdu. J'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps. Il y a un chrétien qui a reçu chez lui un ami d'enfance. Ça faisait 15 ans qu'il ne s'était pas vu. Et puis, je vous fais simple, en quelques mots. Et puis, cet ami d'enfance a dit à ce chrétien, « Eh bien, j'ai rencontré Dieu !» Alors, ils étaient tout contents, lui comme elle, le mari, enfin le couple, ils étaient contents de s'entendre dire que ce brave homme, l'ami d'enfance, avait rencontré Dieu. Et puis, dans la conversation, au fur et à mesure, il s'est aperçu qu'il y avait un grand désordre. Un très grand désordre. Du style, il ne faut pas rester dans la région, il faut partir dans les Pyrénées, parce qu'il va y avoir, du vandalisme, toutes nos réserves seront enlevées, mais là-bas, dans les Pyrénées, on vous donnera de l'eau, les gens partageront. En fait, je ne vous dis que ça. Il a dit à ce chrétien, « Tu es diabolique ». Ta Bible est diabolique et ton église est diabolique. Et lorsque ton pasteur viendra, il ne savait même pas qu'il avait vu le pasteur. Enfin, il parlait de son pasteur. Vous voyez, comme quoi, il y a des embrouilles. Parce qu'on ne cherche pas Dieu. Les gens, il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu. Ils peuvent parler de Dieu tout le long de la journée. Mais ce ne sont pas des gens qui cherchent Dieu, ce sont des gens qui se perdent. Qui en fait, Dieu ne nous en veut pas. Cette lampe à huile avait donc ce pied qui est important et qui donnait de la stabilité. Il reposait directement sur le sol. Et nous l'avons vu ensemble, cette tige centrale prenait sans doute appui sur ce socle assez large pour assurer l'équilibre. Christ est l'équilibre. Christ doit être au centre de notre vie. Et les branches, les trois branches, trois d'un côté, trois de l'autre, en fait, elles sont appuyées sur la branche centrale, Christ. Ce n'était pas possible de le faire autrement. Et c'est là, à cause de cette dimension, à cause de son socle appuyé, assis, eh bien qu'on y trouve cet équilibre. Dans le symbole de cette lampe, on peut y trouver cette raison, cette symbole. Les branches prennent naissance sur la tige centrale, elles jaillissent en quelque sorte, comme on peut dire, l'Église est sortie de Christ. Deuxième raison, le poids total porte sur la seule tige centrale. Aucun autre moyen pour soutenir les tiges. La tige centrale apparaissait au milieu de branches, comme le Seigneur est au centre de son Église. Dans Matthieu 18, verset 20, il est écrit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Tige et branche, quoique distinctes, formaient un tout inséparable, à l'exemple des ceps et des sarments. La tige n'était pas la seule à éclairer, les branches aussi répandaient donc la lumière. Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais il a dit à l'Église, « Vous êtes la lumière du monde. » La même huile, alimentée tige et branche, ce ne rappelle qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit de Dieu, puis un Saint je ne sais quoi. Le Saint-Esprit est seul et unique. Et c'est lui le chef. Père, Fils et Saint-Esprit. Le chef de l'Église, c'est Christ. Et celui qui se mouve, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce matin, il y avait l'onction du Saint-Esprit. Voilà. L'ornementation était exactement la même par la tige et les branches. Il n'y avait aucune différence. Vous voyez que les sept, elles ont cette représentation, les sept sont identiques. Nous sommes à l'exemple de Christ, nous devons courir à l'exemple de Christ. Dans Jean 17, verset 22 à 23, il est écrit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Tout est lié. La lampe à l'huile n'a pas été faite comme ça au bon gré de celui qui a formé cette lampe. Il y avait des consignes particulières. Même s'il n'y avait pas de dimension, elle devait être identique. Sa lumière, et si nous voulons brûler devant l'Éternel, il faut que notre cœur lui soit consacré, que nos yeux soient fixés sur lui. Dans 1 Corinthiens 6, 1 est écrit, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous sommes la lumière du monde. Il n'y a aucune prétention à déclarer que nous sommes la lumière du monde. De moment que nous sommes enracinés et fondés en Christ, de moment que nous avons pour base la parole, que nous suivons la parole, nous sommes par définition des enfants de Dieu. Plein de gens prétendent qu'ils sont enfants de Dieu et qui en fait ne suivent pas la parole. Suivre la parole, il faut avoir de la détermination, du courage, de la volonté. C'est difficile. Le fait de marcher avec Dieu, ça ne se limite pas simplement à un baptême en disant « ça y est, maintenant c'est fait ». C'est une consécration journalière. Ce n'est pas simplement une consécration la veille de partir en vacances parce que je suis détendu, c'est la fête. Non, c'est une consécration aussi le lundi matin, quand le week-end est fini. Quand je suis au travail, les gens nous verront travailler, mais je dis les gens, mais pour moi aussi, les collègues pasteurs, mais aussi au sein même de l'Église. Si nous avons un comportement difficile, une fois quelqu'un me disait comme ça, que son fils qui était parti dans une église, c'est pas dans la région, était parti dans une église, il arrivait comme un peu, c'était un nouveau, il arrivait, les gens ne l'ont même pas salué. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Le frère était charnel. Oui, mais on peut taper sur la tête de l'autre. Mais l'accueil, c'est tellement important, l'accueil. Moi, j'étais dans une église, j'étais choqué. Enfin, pas choqué, parce que bon, on m'en fout. Mais j'étais dans une église, c'est pareil. Les gens passaient à côté de nous, même pas bonjour. Alors, ce n'est pas parce que je suis le pasteur, je m'en fiche complètement, vous savez. Moi, même, ça me met mal à l'aise. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur le pasteur. Ah, venez-vous. Moi, je... Bon, c'est... m'en fiche. C'est pas ma tasse de thé. Voilà. On sait ce qu'on est, puis voilà, c'est tout. Mais là, c'est le bonjour. En fait, c'est le bonjour du Seigneur, presque. C'est « je vous accueille ». Je ne vous connais pas, mais je vous accueille. Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. C'est ça, l'accueil. C'est pas « je te passe devant et puis je t'ignore parce que je ne te connais pas ». Et puis, il y a des comportements. Il y a des comportements. Juste une parenthèse. Ma chaise ne m'est pas réservée. On n'est pas à la synagogue. Parce qu'à la synagogue, on met une petite plaque. C'est la chaise de Stéphane Minger, là. Ben, vous regarderez que sur ma chaise, il n'y a pas Stéphane Minger. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, il y avait une histoire comme ça, il y avait une femme, il y avait un couple, le pasteur avec son épouse était invité, et puis la sœur, elle allait s'asseoir, je crois que c'est une histoire comme ça en gros, elle allait s'asseoir, et puis il y a une femme qui est arrivée, « Non, c'est ma place !» Bon, ben, la sœur qui était... voilà, on ne fait pas de bruit, bon, on ne fait pas de tumulte, elle s'est levée. Et quand elle a su que c'était la femme du pasteur, un peu Louis de Funès avec Galabru. Mais oui, mais vous comprenez qu'à un moment donné, on se retrouve avec un retour de manivelle. Mais c'est tellement plus simple d'être gentil avec les gens, d'être, enfin, je veux dire, le monde, peut-être que je vais vous choquer, mais ce n'est pas grave, le monde peut nous apprendre certaines choses. Contrairement, on est toujours en train de taper sur la tête du monde, mais enfin, c'est sur l'esprit du monde qu'on tape. Mais le monde peut nous apprendre certaines choses. Être poli avec les gens, être agréable avec les gens. Voilà. Bon, ça se limite à certaines choses. Hein. L'huile, j'en ai parlé de l'huile, non? La fonction de l'huile, donc, était le combustible, quoi. Mais l'huile que l'on mettait dans les coupelles, c'était la même huile. Il n'y avait pas une huile qui était pour la coupelle du centre et puis les six autres différentes. C'était la même huile. C'est l'huile, nous le savons, et l'image et le symbole de la personne du Saint-Esprit. Eh bien, c'était la même huile. Lorsque Jésus vous dit « Je vous enverrai un consolateur, un autre consolateur », lorsque Paul dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit », mais Jésus parlait de la même personne. Est-ce que nous réalisons parfois, frères et sœurs, que nous avons la personne de Dieu en nous? Je ne suis pas sûr. Si on s'arrêtait un instant et si on révisait notre copie, et moi le premier, de reconsidérer, parce qu'on peut le dire, simplement, d'une manière intellectuelle, on sait les choses, on sait. On peut faire les choses machinalement. Vous savez, lorsque vous allez à l'auto-école, les élèves qui sont à l'auto-école, mais la première fois qu'ils vont dans une voiture, mais, oh, ils disent, mais il y a des boutons, maintenant ils ont facilité les choses pour les jeunes qui passent le permis. La boîte auto, oh, on ne cale plus, enfin normalement on ne doit plus caler, hein. Mais nous, les anciens, on a appris sur la boîte manuelle. Trois pédales. Maintenant, vous n'avez plus que deux. Mais pour dire, mais quand on arrive comme ça, on dit, oh, mais quoi, alors on fait attention à tout. On appuie partout. Bon, voilà. Et à un moment donné, quand on a un vieux de la vieille, quand on a l'habitude, eh bien, on appuie pas, on ne fait même plus attention. Je pense parallèle pour faire... Avec le Seigneur, au début, on est là, on fait attention. Oh, on fait attention à ce qu'on dit. Pas une critique. On fait attention à ce que l'on entend. Oh, Bruno va nous critiquer, je ne sais pas moi, Jean Bosco. Eh bien, je fais attention. Au début de ma conversion, j'aurais dit à Bruno, non, Bruno, je ne veux pas entendre. C'est ton affaire. C'est pas vrai. C'est un exemple, vous avez compris. Hein? Voilà. Il va t'attraper à la sortie. On fait attention à notre regard. Encore hier, un de mes enfants m'a dit « Mais pourquoi tu le regardes comme ça ?» Je dis « Qu'est-ce que j'ai encore fait ?»« Mais tu ne te regardes pas comme tu le regardes ?» Oh. « J'ai rien fait !»« Non mais tu le regardes comme si tu... » Bon, ben, il faut faire attention, il faut se rappeler. Des fois, il faut un tour de clé. On fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ce qu'on pense. Mais avec le temps qui passe, il y a des vieilles habitudes qui reviennent. Des compromis. Et puis on attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas taper à la porte de notre cœur. Je suis triste. Il n'y a pas besoin du pasteur pour nous dire que le Saint-Esprit, tu l'as attristé. On le sait soi-même. Et frères et sœurs, c'est la même huile. C'est l'huile qui vient du ciel. Enfin, l'huile. La personne, le symbole, la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit qui vient du ciel, qui habite en nous. Il dit, je suis attristé. Je crois que c'est important parfois de prendre du temps et de reconsidérer nos voies. De considérer que cette nature, c'est le même Dieu qui, un jour, qui a créé cette nature, qui est venu me toucher dans ma misère. C'est ce même Dieu qui habite en moi par l'action du Saint-Esprit. En moi, mais en toi. Et de dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de reconsidérer ces choses. On vit trop souvent avec, d'une manière intellectuelle, Dieu dans notre cœur, mais d'une manière pratique, Dieu à côté. C'est pour ça qu'il y a parfois des gens qui sont mal aussi. Parce que Dieu leur résiste. Et Dieu leur résiste en disant, je ne suis pas d'accord avec toi. Et des fois, il y a des gens qui pleurent. Des gens qui... Moi, une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, ben voilà, enfin, enfin je ne peux pas vous dire parce que si vous la connaissez, ça serait... Mais c'est une personne qui est déjà venue une fois. Elle m'a raconté sa vie, mais après... Et Dieu ne peut pas bénir mon couple. Mais... En fait, les gens, ils font comme ils veulent et après, ils pleurent. C'est pas comme ça qu'il faut faire. On ne met pas la charrue avant les bœufs, vous connaissez cette expression. Il faut reconsidérer que celui qui habite en moi, c'est mon cher et tendre sauveur. Lorsque l'huile brûlait avec cette flamme, il y avait des petits ustensiles qui étaient là. Il y avait l'air de rien peut-être, qui pouvait paraître voilà, anodin. Mais il y avait ces deux ustensiles, les mouchettes et les vases. En fait, les mouchettes étaient là pour moucher la mèche. Allez, sans aller trop loin, on a tous, vous avez une bougie chez vous, les dames surtout, ah, les dames, elles aiment les bougies qui sentent bon. Ça coûte un bras, mais enfin bon, c'est pas grave, allez. Ouais, ça vous ferait parce que vous savez que c'est vrai, hein, quelque part. Ben, ça sent bon chez toi, ça sent la cannelle. Ouais, tu parles, la cannelle avec 5, 10 euros la bougie, machin. Bon, enfin, bon, passons. Je continue. Pas de rébellion, s'il vous plaît, pas de rébellion. Mais on a tous fait cette expérience à un moment donné. La cire, elle baisse. Et puis on voit la mèche là qui est mal faite, elle est mal finie, elle n'est pas fine, il y a un bout au bout. Et puis quand on allume, ça fume. C'est ça, moucher la mèche, c'est-à-dire couper le bout de la mèche. Et puis ça fait de la cendre. Lorsqu'il brûlait, ça provoquait de la cendre. Et la cendre dont elle devait être régulièrement ôtée. Les meilleurs hommes de Dieu dans la Bible, les meilleures femmes de Dieu dans la Bible font de la cendre aussi. Il faut qu'ils soient mouchés aussi. Ils ont été mouchés. Nous devons comprendre, frères et sœurs, aussi que parfois, parmi nos connaissances, des frères et des sœurs, nos contemporains, des pasteurs parfois même, l'épouse de pasteurs, c'est une évidence, on attend autre chose que certaines fois on peut être choqué, interpellé. Non mais quand même, j'aurais pas pensé ça du frère, de la sœur. Eux aussi, ils ont besoin d'être mouchés. Vous remarquerez que ce n'est pas l'huile qui fait de la cendre, mais c'est la mèche qui fait de la cendre. En fait, c'est le croyant qui fait de la cendre, la mèche qui brûle. Et... ne soyons pas étonnés si parfois il y a des frères, des sœurs qui sont comme mouchés. Si la mèche pouvait parler, dire « Aïe, ça fait mal d'être coupé. » Moi, j'avais d'autres ambitions, continuer à brûler comme ça, même si ça finit mal au bout de la mèche. Et Dieu nous dit, stop, c'est pas ça que je veux pour ta vie. Laisse-moi te moucher. Je ne veux pas que ce soit ta lumière à toi qui brûle, qui fume. Oui, ça n'enlève pas notre salut. Mais on peut passer à côté de certaines choses que Dieu veut pour notre vie. Et c'est important d'accepter d'être mouché. Ça fait mal d'être mouché, frères et sœurs. Et puis c'est peut-être humiliant parfois de voir qu'on a fait de la cendre et que le souverain sacrificateur vienne enlever cette cendre. Tout homme, toute femme a besoin d'être mouché en Christ. Tout homme, toute femme a besoin de se faire retirer la cendre. Mais dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 3, il dit, et ça doit être notre consolation, frères et sœurs, il ne brisera point le roseau cassé, ok, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Le but de Dieu, ce n'est pas d'éteindre la mèche, d'éteindre la flamme. C'est tellement simple. On a tous les petits pour faire un peu les costauds devant les enfants. On peut dire, regarde, j'éteins la bougie avec deux doigts. Et juste avant, on a mis un peu de salive pour pas que ça brûle. Regarde. Oh, papa, il est fort. Wouh ! Il ne s'est même pas brûlé. C'est papa. On s'est tous amusés à faire ça, non ? Bon, il n'y a que moi, peut-être. Bon. Tant pis. Toi aussi, non ? Jamais. Dieu ne veut... Je sais où tu habites. Hein. Demain matin, 6h, je viens te voir. Ça ne sera pas pour le café. Ça, c'est David qui a mis ça là. Mais pour dire simplement que, frères et sœurs, ne vous durcissez pas. Ne vous endurcissez pas. Ne vous rebellez pas quand Dieu vient vous moucher. On en a besoin d'être mouché. Il y a des gens qui parfois, tant qu'on n'est pas mouché, on brûle, oui, bien sûr, on brûle. Mais on fait de la fumée à côté. Et parfois on brûle et sans même s'en rendre compte. Et de dire, Seigneur, eh bien, sonde mon cœur, mes pensées, mes reins. Je veux avoir ce courage. Je veux être assez courageux pour comprendre, pour accepter quand tu me reprends. Même si parfois ce sont des choses qui me semblaient bonnes, que Dieu me dise, là je ne suis pas d'accord avec toi, puisque tu me permets de te le dire, alors que je t'ai souvent fait signe, mais que là tu es disposé à entendre. Là je ne suis pas d'accord. Et en fait c'est la raison pour laquelle tu n'avances plus. Frères et sœurs, il y a combien de temps que vous êtes dans l'église ? En fait, pas forcément dans l'église, mais il y a combien de temps que vous êtes au Seigneur ? Est-ce qu'on se rappelle de nos débuts avec le Seigneur ? Ouh ! Moi, je me rappelle, avec mon frère, on chantait, on dansait dans la chambre. Dans la chambre, hein, pas dans l'église. On dansait dans la chambre. Mais on dansait de joie. C'était de la joie, on sautait. Ouh ! Oh, moi, le dimanche, le culte était fini, j'étais pressé que le dimanche d'après arrive. Disons. Oh ! Ça vous faisait la même chose ? Mais pour autant... Parfois, on peut avoir du relâche. L'habitude, les épreuves, la fatigue, les découragements. Mais ce que Dieu veut nous dire ce matin, peut-être, c'est « Je veux te renouveler, te régénérer. » Et c'est la raison pour laquelle je termine. Eh bien, tu vis, tu as l'impression de ramer. En fait, tu rames. Tu sais pourquoi tu rames ? Tu es bien dans la bonne barque. Tu as bien en main les rames. Tu as dit au Seigneur, « Seigneur, je t'invite dans ma barque. » Mais ça, c'est fait. Il n'y a pas à remettre ces choses en question. Oui, tu es passé par la repentance. Oui, tu as accepté Jésus dans ta vie, mais pas pleinement. En fait, ta barque est toujours amarrée. OK. C'est pas grand-chose. Hein. c'est juste une amarre. Le Seigneur est dans ton bateau, et toi tu rames, il t'a dit passons à l'autre bord, alors tu acceptes, mais tu te fatigues, tu rames. Puis à un moment donné, on a mal. Ça fait mal aux épaules de constamment faire les mêmes gestes, hein. Les articulations elles prennent. Hein. Mais si ce matin tu disais, Seigneur, je comprends maintenant pourquoi. En fait, ce que je suis en train de te dire, tu le sais. Mais c'est juste un rappel. C'est à toi de te retourner, de tirer sur le bout. Tout marin ne va pas faire un bout qui va tenir pour ne pas pouvoir l'enlever après. Il met un nœud spécial pour que ce soit plus facile pour retirer le plus rapidement possible. Il te suffit simplement de tirer sur le bout et tu vas partir. Donc tu n'as pas perdu ton salut. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur ne s'est pas repenti de ses dons qu'il t'a accordés. Mais tu te dis, j'ai l'impression de ramer. Enlève le bout et tu vas partir. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs. Acceptez d'être mouché par Dieu. Et votre lampe brillera de tous ses feux. Vous faites partie de cette lampe. Nous sommes appelés à éclairer les uns les autres. À nouveau, tu pourras éclairer autour de toi, autour de tes frères, de tes sœurs en Christ, de tes collègues de travail, de ta propre famille qui t'ont peut-être blessé, parfois même humilié. Combien de fois nous avons agi d'une manière charnelle plutôt que spirituelle ? Parce qu'en fait, nous avons agi d'une manière charnelle plus que spirituelle parce qu'il y avait le bout qui était attaché au quai. Hébreux 12, c'est le dernier verset, chapitre 12, pardon, versets 10 à 11. Hébreux 12, on peut enlever la lampe et on va mettre le verset. Chapitre 12 de Hébreux, versets 10 à 11, est écrit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés. Un fruit paisible de justice. » Il y a un but, frères et sœurs. C'est afin que nous participions à sa sainteté. Alors Seigneur, oui, c'est notre prière qui est personnelle, individuelle. On accepte ou pas d'être mouché. Je pense que c'est mieux d'accepter. Parce qu'on a tout à gagner.